Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h.
What do you wear to bed? You wear a pajama top, the bottoms of the pajamas, Chanel number 5. It's the truth.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Poupoupidou, et oui, le parfum, que ce soit Chanel numéro 5 ou bien d'autres fragrances, c'est l'un des cadeaux que vous préférez offrir à Noël. Et ça tombe bien parce que vous avez le choix. Il y a plus de 1000 parfums qui sortent chaque année. Alors comment le choisir, ce parfum? Car chaque jus, il me semble qu'on peut dire ça, a son histoire, sa formule magique. On va en parler avec vous, Nicolas Debarry. Vous êtes né, parce que vous avez un nez, c'est ça?
Oui, bon, comme c'est le terme que tout le monde utilise, on l'utilise aussi, nous autres. Alors, on n'aime pas trop être réduit à cet appendice physique, parce qu'évidemment, tout se passe dans la tête, pas dans les narines.
C'est comme si on disait que j'étais voix, par exemple. Voilà, c'est ça.
Et on se rend compte très jeune qu'on est né.
Ben, dans mon cas, pas du tout, puisque non. C'est au contraire une seconde carrière que j'ai démarrée à 40 ans. Donc c'est pas mon cas. Vous connaissez Grenouille, le livre, le film. Lui, il découvre qu'il est né dans ses langes. Il est au milieu des poissons.
Le parfum de Patrice Huskin.
Et le film qui en a été tiré. Mais ça, c'est un peu exceptionnel. Je pense que oui, quand on est enfant. J'ai une petite dernière qui a 9 ans, je l'ai bien accompagnée sur le plan olfactif, si je puis dire, depuis sa naissance.
Mais ça,
on s'aperçoit que les enfants sont très réactifs, donc sans doute qu'un futur né a déjà cette sensibilité. Mais il n'en a pas conscience. Je connais très peu de mes confrères qui ont décidé à l'âge de 10 ans qu'ils seraient nés.
Ça veut dire que vous faites quoi quand on est né? On fait quoi? On s'en sert comment?
Alors, on profite de la vie comme tout le monde et puis on fait des études.
Je parle des parfums, de votre métier.
Alors, bon, à un moment donné, on devient né, et à ce moment-là, on se met au travail, en effet.
Non, mais alors, et donc, c'est quoi concrètement? À quoi vous sert votre nez? À reconnaître, à apprécier les senteurs?
Ça pourrait être le cas, parce qu'il y a aussi des gens qui évaluent les nez, les parfums, pardon. C'est un peu comme il y a les œnologues, et puis les critiques qui goûtent pas, et puis les sommeliers. C'est des travaux différents. Alors, le nez, proprement dit, c'est lui qui crée. Alors son travail, en deux mots, c'est très simple. C'est très simple à expliquer. Il a devant lui ce qu'on appelle parfois un orgue de parfumeur, parce que ça ressemble un peu à un orgue, parce qu'il y a des tas de petits flacons qui donnent un peu l'image des tuyaux d'orgue de l'instrument de musique. Et puis, il mélange jusqu'à ce que ça donne quelque chose de sympa, qu'on appelle une fragrance.
Bon.
Voilà, un truc qui sent bon et qui deviendra un parfum et qui deviendra peut-être un succès ensuite.
Quelle est la senteur qui a inspiré le plus de parfums, Nicolas Debarry?
C'est une question un peu compliquée parce que l'histoire de la parfumerie, je me suis beaucoup spécialisé dans ce créneau. C'est pas une affaire récente, ça a des milliers d'années, aussi bien en Occident, c'est-à-dire ça remonte pour nous à l'Égypte, mais en Orient, les Chinois sont les grands maîtres de la parfumerie orientale depuis des milliers d'années. Donc je saurais pas très bien vous dire ce qui se passait il y a mille ans. Il y a des produits, des matières premières que nous utilisons aujourd'hui qui existaient déjà et qui étaient déjà mythiques et en général très cher.
Je pensais à la rose, moi. J'ai l'impression que c'est une senteur qui a beaucoup inspiré et qu'on retrouve dans beaucoup de parfums.
Vous savez même qu'il y avait un dieu dans l'Antiquité, enfin un demi-dieu qui s'appelait Adonis, qui était l'incarnation de la rose. Je ne vais pas vous dire le contraire. Néanmoins, il y a des produits peut-être encore plus mythiques, comme l'ambre.
L'ambre,
le musc, ou même un produit qui est devenu à la mode, curieusement, depuis 4-5 ans, dont vous avez peut-être entendu parler, dont les auditeurs ont peut-être vu dans les boutiques l'arrivée massive, qui s'appelle le oud. On a utilisé l'expression de la langue arabe parce qu'il est très en mode.
C'est le bois, ça, c'est du bois odorant.
C'est du bois d'aloès. C'est le bois d'aloès en français classique. Il a servi à embaumer le corps du Christ, vous voyez, donc c'est pas une affaire récente.
Et ça, c'est une senteur très rare, très chère.
Cher. Ouais.
Est-ce qu'il y a des senteurs qui sont plus dures à travailler?
Celle-là, par exemple, parce qu'elle est tellement mystérieuse, presque équivoque, que quand je l'ai sur ma table, je ne sais pas trop quoi en faire, mais enfin, on y arrive. Rose est plus facile, puisqu'on mentionnait les fleurs, c'est plus facile.
Vous nous avez apporté, je le disais tout à l'heure, un parfum solide, c'est ça? Alors, faut le décrire, on est à la radio, ça ressemble à un baume pour les lèvres en quelque sorte.
Vous êtes fort en maquillage, vous.
Oui, oui.
C'est vrai qu'on est habitué de façon moderne, c'est-à-dire contemporaine, mais déjà depuis un bon moment, depuis le 19e siècle, à des parfums liquides, essentiellement, on dit dans le jargon, alcooliques. Ça veut dire que ce sont des huiles essentielles, je vous disais tout à l'heure que mon travail consiste à les mélanger, que l'on dilue ensuite dans de l'alcool pur. Et c'est ça que nous trouvons dans les petites bouteilles avec lesquelles vous faites pchit le matin après.
Et vous, comme vous êtes plus chic, vous avez un petit baume, c'est ça?
Non, alors c'est pas pour moi, mais c'était pour vous montrer, d'abord pour pas envahir trop massivement votre studio, qui n'est quand même pas immense, tandis que là, évidemment, ça ne dégage pas, et surtout quand on ferme, ça sent plus du tout. Mais par contre, non, c'était pour vous montrer que jusqu'au 19e siècle, c'est comme ça que les gens se parfument à la cour en France sous Louis XV ou chez l'empereur de Chine.
Eh bien, justement avec vous, Nicolas de Barry, vous êtes l'auteur de 101 parfums à découvrir aux éditions Duno. On va découvrir, sentir les parfums qui envoûtaient Catherine de Médicis, Casanova, Louis XV et même l'impératrice Sissi. À tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Ce soir, on vous raconte l'histoire de ces jus qui ont charmé, envoûté les narines de nos ancêtres et qui nous ravissent encore aujourd'hui. Nicolas de Barry, vous êtes spécialisé dans la reconstitution de parfums historiques. Les parfums de quelle personnalité avez-vous reconstitué? Et puis comment faites-vous, surtout?
Bonne question. D'abord, il y a eu un premier.
On essaye de travailler.
Bravo,
un
Thomas.
Peu.
C'est bon, hein. Là, je vous mets un
premier. Il y a eu un premier. Alors, comment c'est arrivé de façon fortuite? C'est-à-dire que je m'intéressais bien sûr aux parfums et à l'histoire des parfums. Peut-être un peu ma caractéristique. J'ai dit que c'est une deuxième carrière. Dans la première, je m'intéressais à l'histoire. Et donc, dans la deuxième, je me suis intéressé à créer des parfums, mais aussi à l'histoire des parfums. Mmh. Et me trouvant dans un festival très sympathique à Nohant, dans le Berry, consacré à George Sand, je me suis retrouvé avec un de ses biographes, qui m'a dit, mais George Sand adorait les parfums, etc. Et ensuite, il m'a envoyé des extraits de sa correspondance qu'il avait éditée, où il y avait effectivement beaucoup d'informations. Et puis alors là, j'ai eu, pour mon premier essai, beaucoup de chance, puisque j'ai également été visiter la dernière descendante par alliance de George Sand, qui a une maison à Gargilès, toujours dans le Berry, et qui m'a montré un pendentif avec un petit flacon baccarat enchâssé d'or.
Alors, qu'est-ce qu'elle portait, George Sand?
Et ce qu'elle portait, George Sand.
Comme
alors, j'ai pu ouvrir le flacon. Donc, des références de la main de George Sand dans sa correspondance, un flacon entamé, un peu abîmé, mais qui me donnait quand même des bonnes informations sur le contenu. Et donc, je me suis lancé. C'est l'occasion.
Alors, qu'est-ce qu'elle portait? Qu'est-ce qu'elle portait comme type de parfum, George Sand?
Alors, qu'est-ce qu'elle portait? Comme vous le savez, George Sand était une femme à la mode et qui faisait les modes. Et un de ses grands dadas, ça a été l'orientalisme. Celle qui a envoyé Delacroix, les Flaubert, etc. sur cette piste. Elle n'est jamais allée en Orient, mais elle adorait les parfums qui venaient d'Orient, qu'on lui ramenait des souks d'Istanbul ou du Caire.
Et Catherine de Médicis, elle portait quoi comme parfum, Nicolas?
Alors,
de Barry, puisque vous avez fouillé dans les affaires de ces dames.
Catherine de Médicis, parce qu'il existe. Il se trouve que Catherine de Médicis faisait faire des parfums comme les Médicis par une pharmacie, parce que les professions étaient pas cloisonnées comme aujourd'hui, par une pharmacie qui s'appelle Santa Maria Novella, du couvent Santa Maria Novella à Florence, qui existe toujours. C'est une marque qui existe 5 siècles plus tard. D'ailleurs, j'ai retenu dans le livre 101 parfums, des parfums de cette Santa Maria Novella, et parmi ceux-là, il y a une eau de Catherine de Médicis. Alors, qu'est-ce qu'on utilisait à l'époque? Il y avait plusieurs façons d'utiliser parfum, ou en eau. C'était plutôt quelque chose d'utiliser pour le bien-être et même la santé, pour repousser les miasmes, pour se prémunir contre la peste et le choléra. Et puis vous aviez le parfum, alors moi j'ai reconstitué celui de Margot, qui est la fille de Catherine de Médicis, Et alors elle, c'est le parfum de séduction, c'est-à-dire justement qu'elle utilise particulièrement sous forme d'onguent. Et alors là, on est dans des produits très, très, très puissants, le jasmin, l'ambre et le musc.
Et ces saveurs, ces parfums, pardon, on peut les porter, les redécouvrir. Bah, vous allez nous dire ça dans un instant. Numéro 5 de Chanel, Opium de Saint-Laurent, Chalimard de Guerlain. Ces noms qui évoquent forcément des peaux, des sensations, des souvenirs. On vous raconte aussi leur histoire sur RTL dans un instant.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. Entre curieux sur RTL, Sidonie Bonnet.
Elle a des gestes de parfum qui rendent bête ou rendent chien.
Thomas Hugues.
RTL.
Jusqu'à 22h.
Parfum de vanille. Amour qui pétille.
La curiosité est un vilain défaut.
Voilà un beau jus d'onde préparé par André Facetta. Nous sommes avec Nicolas de Barry. Vous êtes né et vous publiez, né comme le nez, vous publiez 101 parfums à découvrir aux éditions du Nord. On parlait notamment des parfums mythiques. Comment un parfum devient mythique? Par exemple, je pense à ce parfum, Chanel numéro 5.
What do you wear to bed? You wear a pajama top, the bottoms of the pajamas, or the... So I said, Chanel number 5. It's the truth.
Chanel number 5. C'est Marilyn Monroe qui répond à un journaliste qui lui demande « Mais vous portez quoi pour dormir? Un pyjama ?» Mais non, quelques gouttes de Chanel numéro 5. Pourquoi ce parfum, il est mythique, Nicolas de Barry?
Eh ben celui-là a bénéficié d'une sacrée promotion.
Ça fait rêver.
Ce qui est extraordinaire, puisque Chanel n'était pas derrière. C'est pas payé par Chanel. C'était spontané. C'était une interview. Le parfum Chanel 5 était déjà connu avant. Il a été créé en 1922. C'est le premier parfum de Gabrielle Chanel, de Coco Chanel. C'était un peu un coup comme ça qu'elle avait en tête. Elle n'avait rien à voir avec les parfums. Et puis elle a fait faire un parfum.
Quelle était sa commande précise? Parce qu'elle était assez exigeante, Coco. Chanel, qu'est-ce qu'elle a demandé au créateur?
En fait, non. En fait, elle a eu plusieurs échantillons comme ça. La légende est contradictoire, hein. Mais je vous raconte ce qu'on en a. S'il y a des thèses à faire, il faudra partir de ça. Elle était très ouverte à des propositions et un parfumeur qui s'appelait Ernest Beau est venu avec sa petite mallette et il avait plusieurs échantillons à lui montrer pour voir un peu ce qui lui plaisait. Et quand il a ouvert, alors il avait que des échantillons numérotés de 1 à je ne sais combien, et puis quand il a ouvert le numéro 5, elle a senti ça, elle a dit voilà, c'est ça que je veux. Alors l'autre mythe, parce que si un parfum est mythique, c'est qu'il y a des tas de mythes, peut-être ouais. Que ça est faux, mais peut-être que ça est vrai ou dans une partie, c'est qu'en plus le dénommé Beau, ou le labo qu'il aurait fait pour lui ou l'assistante, s'était trompé dans la formule, et qu'il était... surdosé en aldéhyde qui était un produit chimique un peu nouveau et qui a plu à Chanel parce que c'était différent des autres. Je crois qu'elle a choisi le 5 parce que elle a eu l'intuition qu'il y avait quelque chose un peu différent et elle a voulu lancer ça. Et puis alors ensuite, Marilyn Monroe, mais ça c'est après-guerre, en a fait évidemment un succès mondial. C'est toujours le parfum le plus vendu dans le monde.
Alors on continue comme ça de dégrainer des noms de parfums qui sont dans l'inconscient collectif. Opium de Saint-Laurent, créé en 1977, il fait scandale. Pourquoi? À cause de son nom?
Je pense. Oui, c'est essentiellement à cause du nom. Parce que opium est ce qu'on appelle un oriental. Et c'est une des familles les plus classiques de nos parfums. Des orientaux, il y en a plein. Il y a celui-là, il y a Chalimard, il y a Yuzdiu, il y en a d'autres. Mmh. Pourquoi opium? Parce qu'il est arrivé à un moment, il était bien dosé, il était puissant.
Quand vous dites c'est
mais
un oriental.
Il y avait surtout ce mot opium.
Mais quand vous dites que c'est un oriental, excusez-moi, mais ça sent quoi en fait?
Il faut l'expliquer, effectivement.
Ah bah oui.
L'oriental, c'est une tradition qui vient d'Orient, ça va sans dire, puisque les parfums venaient d'Orient. Hein. Dans l'histoire de la parfumerie, tout vient d'Orient. Ensuite, ça devient au 19e siècle, vous savez, le petit mot Paris qu'on met au bas de l'étiquette. Mais c'est tout à fait récent. Ça passe un peu par l'Italie au 18e siècle, mais tout vient d'Orient. Et en Orient, notamment en Inde, parce que l'Inde possède les matières premières. savez, la course aux épices, etc., c'est la course au parfum, c'est la même chose. Et en même temps, a mis au point un savoir-faire de fabrication de parfums qu'on appelle les attars, ça vient d'un mot arabe d'ailleurs. Et donc, ces parfums arrivent en Occident, via les croisés au Moyen-Âge, ça. Et ensuite, petit à petit, il se crée une famille qui ressemble à ces parfums. Ce sont des parfums où il y a ces notes très chaleureuses et parfois un peu lourdes, l'ambre notamment, le santal, et où il y a toujours une fleur très puissante comme la rose ou le jasmin. Cette caractéristique se retrouve même dans les parfums contemporains et notamment dans Opium que vous avez cité. Mais c'est surtout en raison, je pense, de son nom, parce que c'est évidemment une provocation.
C'est un joli coup de marketing aussi, de choisir ce nom.
C'est pur marketing. Le marketing, ça joue beaucoup.
Et le Opium de Saint-Laurent, créé en 77, est-ce qu'il a la même odeur aujourd'hui, parce qu'il existe toujours ce parfum?
Ah, alors encore une bonne question.
Ah, et c'est moi aussi j'ai un pas.
Merci.
Alors on a égalité, Thomas. Ah, bon, ah, ça fait plaisir, j'attendais, j'étais un peu gêné.
Là, vous avez mis le doigt où ça blesse. Et alors, je vais essayer d'être quand même honnête ce soir, comme en général. Alors, comme je suis un parfumeur indépendant, c'est peut-être plus facile. Évidemment, non, mais c'est une chose, peut-être un peu rasoir, je vais résumer, mais en gros,
oui, résumé.
Vous avez des réglementations qui sont bombardés sur le monde de la parfumerie, sur les créateurs, sur les marques, etc., qui obligent sans arrêt à modifier les formules. Et puis aussi, il y a des produits, notamment naturels, qui sont de plus en plus rares, de plus en plus chers. Donc, petit à petit, on change les formules pour se conformer. Alors, une anecdote intéressante quand même, il y a une trentaine d'années, Guerlain s'est trouvé avec un container refoulé à New York. Pourquoi ? Parce que dans les Guerlain, il y avait beaucoup de notes animales. Ce qu'on appelle les notes animales, c'est des matières premières. J'ai déjà mentionné l'ambre. L'ambre, ça vient d'une sécrétion du cachalot. Le musc, c'est un animal de l'Himalaya. Et pour des raisons variées, notamment d'ailleurs bonnes de protection d'espèces éventuellement en voie de disparition, la législation américaine, du jour au lendemain, a dit qu'il n'y a plus de notes animales dans les parfums.
Ce que vous êtes en train de dire, Nicolas de Barry, c'est que dans les parfums, de plus en plus, on n'a plus de senteurs naturelles, mais synthétiques, c'est ça?
Voilà. Donc là, on a supprimé les animaux, enfin les notes animales ensuite. On a rendu plus difficile certaines notes florales, par exemple, tout simplement parce qu'elles étaient trop chères ou parce que certains composants chimiques de ces produits étaient considérés comme éventuellement un peu dangereux. C'est un peu ridicule parce qu'on n'est jamais mort d'inhaler un parfum, ni on n'a jamais été aux urgences pour ça, mais nous sommes obligés d'en tenir compte. Et donc, et moi aussi j'ai des clients qui viennent dire « Ah, mais tel parfum n'est plus comme il était. »
Donc Opium de Saint-Laurent est un peu différent.
Donc Opium, Chanel 5, tous les parfums légers sont aujourd'hui un peu différents de ce qu'ils étaient il y a 30 ans ou 50 ans.
Et c'est ce qu'on peut entre autres découvrir dans votre livre « Sans un parfum à découvrir » chez Duno. On continue de se balader dans les allées de cette parfumerie géante. On raconte l'histoire de ces parfums d'exception. Ça sent bon.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Que vient faire Lady Gaga dans une émission sur les parfums? Bonne question.
Elle met du parfum?
Elle a créé son parfum, évidemment, qui s'appelle Lady Gaga Fame, au hasard, hein, la célébrité. On en parlera dans un instant, mais d'abord, Nicolas de Barry, je voudrais que vous nous expliquiez, on a dit vous étiez né, vous créez des parfums, mais vous créez des parfums un peu particuliers. C'est-à-dire, moi, si j'ai beaucoup d'argent, je peux demander un parfum unique que je serai le seul à porter?
Oui, c'est possible. On est quelques-uns à le faire. C'est même, au fond, l'idéal. Hein. Si on a les moyens de se faire un parfum qu'on divisera pas avec les autres, qui sera votre parfum intime, personnel, pour toute la vie.
C'est-à-dire qu'on vient choisir des senteurs, c'est ça?
Voilà, ça se passe comme ça. Je rencontre mes clients patients, je sais pas comment on peut les appeler, soit chez moi en France, soit je vais les rencontrer, surtout des étrangers assez lointains, vous voyez, Moyen-Orient, Extrême-Orient. Et j'essaie de découvrir leur famille. Tout à l'heure, on parlait des orientaux. Ben voilà, ça, c'est une famille, il y en a d'autres. J'essaie de voir quel type de parfum ils aiment. Et puis ensuite, c'est ça. Je leur fais sentir des belles matières premières. Alors là, pour le coup, naturel, cher, il n'y a pas de problème.
Ça coûte combien? 20 000 euros, 10 000 euros, un parfum?
Et alors, bon, c'est entre 10 000 et 20 000 euros. Ça dépend aussi de ce qu'ils choisissent, de la difficulté du projet. Et ensuite, c'est un parfum que on a pour la vie.
Oh bah ça me plairait bien Noël, ça, Thomas.
Oui, d'accord.
Un petit cadeau de co-animateur. Bon, ça serait sympa.
Vous demandez au patron.
Pour notre première année.
À notre patron commun, s'il peut m'augmenter. Alors, on a écouté Lady Gaga. Qu'est-ce qu'il a de particulier, son parfum, là, Lady Gaga Fame?
Je vais être très franc avec vous. Il n'a pas énormément de particularités. Enfin, il en a
il
une.
Il n'est pas terrible.
Physique.
Si
non, il est bien. Bon. Sinon, je ne l'aurais pas mis. Mais je vais vous dire pourquoi.
Oui, parce qu'il est dans votre
Mais livre. Il a une caractéristique si technique extraordinaire. C'est que le flacon, on ne le voit pas, là, mais je ne l'ai pas amené non plus, mais vous le trouverez sur les lieux habituels de vente.
Oui.
Il est transparent, bien sûr, comme en général les flacons de parfum. Et le jus est noir, mais noir comme de l'encre noire. Donc vous n'osez pas vous parfumer. Mais évidemment, il y a un processus chimique qui fait que quand vous appuyez sur le spray, le jet qui sort se décolore immédiatement. Et donc, si ça atterrit sur votre chemisier blanc, il n'y aura pas de tache noire.
Ouf,
bon, alors ça, c'est le côté gadget qui me plaît. Bon, Lady Gaga, elle plaît aussi, c'est évident. C'est un parfum qui a beaucoup plu à ma petite dernière, qui est une préadolescente. Je me suis dit, je dois, pour les éditions du No, choisir 101 parfums. J'ai eu carte blanche, donc je choisissais ce que je voulais. Il y en a beaucoup trop de parfums. Je me suis dit, bon, je vais mettre les parfums mythiques, comme dont on parlait tout à l'heure, ou les parfums que je préfère, quand même, ou des parfums un peu secrets. Mais je me suis dit, il faut aussi que je mette des parfums pour les ados. C'est pas exactement ma tasse de thé ou ma tasse de parfum, mais c'est un parfum qui plaît aux ados.
Bientôt, c'est Noël. On sera un certain nombre, peut-être, à offrir du parfum à un proche. C'est facile de choisir pour quelqu'un d'autre, parce qu'on dit souvent, attention, un parfum peut virer sur une peau. Donc ça veut dire qu'un parfum qu'on sent comme ça dans la parfumerie qui a l'air délicieux, si on l'offre à tante Mathilde et que ça va pas, ça peut être une vraie catastrophe.
Avant de répondre
surtout
à votre question,
qu'elle est désagréable,
je vais vous donner un
chiffre. Elle est très sympa, Mathilde.
50% des parfums vendus sont vendus justement, comme vous l'évoquiez, au moment de faire des cadeaux de Noël. Donc, effectivement, beaucoup de gens vont aller dans les... D'ailleurs, d'où l'intérêt de mon livre. Il faut d'abord faire cadeau ou s'acheter le livre pour aller dans la boutique.
Vous êtes bon en marketing aussi. Hein. Ouais.
Voilà. Donc, je peux acheter n'importe quel parfum
Alors, est-ce que ça peut choisir un parfum? Et surtout, comment choisir un parfum pour quelqu'un d'autre? C'est-à-dire pour soi-même. On le sait, il faut aller dans la parfumerie, sentir sur des mouillettes, ensuite mettre sur la peau, surtout pas acheter tout de suite. Les boutiquiers me détesteront quand ils entendront ça. Mais...
Ah, parce qu'il faut laisser le temps de...
Oui,
de
alors
quoi
voilà, justement. Parce qu'il faut laisser le temps de voir si ce parfum vous va bien, vous s'imprègne dans votre peau. De façon, tout le monde a cette expérience d'un parfum, un parfum d'une amie, et puis je l'ai acheté, et puis il n'est pas bon sur moi, et ainsi de suite. Donc il faut l'essayer. Mais alors comment faire quand on offre un parfum à quelqu'un, surtout si c'est sa belle-mère, vous voyez ce que je veux dire. Bon, ben là, on se laisse porter par... peut-être que
Henri
pourra aider, parce qu'il y a une anecdote. Alors, par exemple, Lady Gaga ou le parfum de Catherine de Médicis. Comme ça, on lance le discours sur Catherine de Médicis et on se mouille pas sur le style ou la qualité du parfum.
Pourquoi est-ce qu'on dit que certains parfums, Nicolas de Bary, donnent la migraine? Je peux vous en parler parce que moi,
beaucoup
ça me donne
de gens
souvent
me
la migraine.
Ça. En fait, ce qui est sûr... Il peut quand même y avoir d'autres cas de figure, mais le cas de figure le plus classique, c'est l'alcool contenu dans les parfums, hein, puisque la plupart des parfums que nous utilisons, ce sont ces sprays. Alors, surtout utilisés en spray, parce que vous en distribuez partout autour de vous, et ensuite vous inhalez tout ça. Et il peut y avoir des réactions, effectivement, de maux de tête. C'est exactement comme si vous buvez trop de whisky. Mmh.
Dernière question, vous avez évoqué les parfums un peu extravagants, et celui-ci est cité dans votre livre 101 parfums à découvrir, publié chez Duno. C'est un passionné de voitures anciennes qui l'a créé. Qu'est-ce qu'il a de particulier?
Bon, c'est un ami parfumeur qui s'appelle Eugenio Alfandéry, qui est justement le patron de Santa Maria Novella, qui est la marque la plus traditionnelle, la plus ancienne. Parfum de Catherine de Médicis, on en a déjà parlé, et qui a voulu faire une plaisanterie à l'italienne. Alors, il se trouve qu'il est quand même, effectivement, il a une autre passion qui sont les vieilles voitures. Il a voulu faire le parfum de sa passion, c'est-à-dire l'odeur de garage. Alors, c'est un mélange de caoutchouc. En note de tête, vous avez... Bah, d'ailleurs, c'est très volatile. Hein, quand vous allez dans une station essence et que vous mettez de l'essence dans votre voiture, vous sentez bien. Hein,
mais il n'est pas pour moi, ce parfum. Alors, bonjour la migraine.
C'est très volatile.
a-t-il ? Et donc, il y a ça.
Alors, il ne m'a pas donné le secret, évidemment. Il n'a pas mis du vrai pétrole. Mais alors, l'intérêt de ce parfum, c'est qu'une fois que vous avez fait ce processus, ça sent donc très mauvais, si vous voulez, pour être clair. Mais au bout d'une demi-heure, c'est très bon.
Ça vire. Ça devient agréable.
Les notes d'essence, là, disparaissent. Et puis, vous avez un parfum très, très classique, sympathique, qui arrive derrière. Quand je lui ai posé la question, mais t'as réussi à vendre ça ? Il m'a dit non, c'est un échec total, sauf au Japon. Et grâce au marché japonais, c'est quand même un produit que Santa Maria Novella a conservé parce que les Japonais ont trouvé ça très, très épatant.
Merci beaucoup. Sans un parfum à découvrir. Nicolas de Bari, c'est aux éditions Dunod. Merci infiniment, c'était passionnant.
Vous écoutez RTL.